Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, il y a urgence à recycler ou à moins jeter. Avec 474 kilos de déchets par personne et par an, l'Europe a encore du travail à faire. La semaine dernière, le Parlement européen a entamé une démarche vertueuse. L'interdiction de tous les produits plastiques à usage unique, gobelets, coton-tiges, assiettes. Mais il faudra patienter jusqu'en 2022 avant que le texte ne soit appliqué. Et en attendant, certains pays comme l'Italie font déjà la moue. À Rome et ailleurs, la mesure n'est pas vraiment appréciée. Cécile Debarge.
C'est presque un paradoxe. Troisième pays d'Europe après la Grèce et le Royaume-Uni pour ses côtes qui s'étendent sur près de 7600 kilomètres. L'Italie n'est en réalité pas une grande défenseuse de la mer qui la borde. En cause, une fâcheuse tendance à laisser traîner ses déchets partout et une passion difficilement compréhensible pour les articles en plastique à usage unique qui représentent la moitié de la pollution marine. Alors à peine la décision du Parlement européen annoncée, les premiers articles de la presse italienne ont dénoncé un coup dur pour l'industrie ou une mesure pénalisante pour l'économie du pays. Elisabetta Gardini, eurodéputée Forza Italia, a même parlé d'une attaque contre le Made in Italy. Car si l'Italie consomme beaucoup de produits en plastique à usage unique, elle en produit aussi beaucoup. Le marché pèse près d'1 milliard d'euros répartis entre 25 entreprises qui comptabilisent plus de 3000 employés. Le sujet est brûlant, il divise les partis au gouvernement, avec d'un côté le 5 étoiles qui aimerait des mesures plus contraignantes encore, alors que la Ligue, de concert avec Forza Italia et le PD, aimerait que le texte soit assoupli. La Ligue demande notamment qu'une exception soit faite pour les hôpitaux et les écoles.
Alors interdire des produits qui représentent près de 70% de la pollution des océans, c'est un premier pas. Recycler en est un autre. Parmi les élèves très méritants du recyclage, on trouve l'Allemagne, 66% de produits recyclés. Mais il y a aussi tous ceux qui ont fait beaucoup d'efforts au cours des 10 dernières années. On parle alors de la République tchèque qui a fait passer son taux de recyclage de 5 à 30%, ou la Lituanie qui est passée de 2 à 33% de déchets transformés. Petit pays balte, mais grandes ambitions environnementales. Les Lituaniens recyclent aujourd'hui 93% des bouteilles de bière, de jus, de vin et d'eau mises sur le marché, soit la quasi-totalité des 600 millions de contenants en verre, en plastique et en métal. Le tout grâce à un système de consignes introduit début 2016. Pour en parler, on retrouve Marielle Vituro à Vilnius. Bonjour Marielle.
Bonjour Frédéric.
Alors ce qu'on entend, c'est la machine qui avale les bouteilles pour être recyclée.
Tout à fait. Les machines à recycler se trouvent dans les supermarchés. À n'importe quelle heure de la journée, on apporte ses bouteilles vides avant d'aller faire ses courses. La consigne est de 10 centimes d'euros par bouteille. Et quand toutes les bouteilles ont été avalées, Frédéric, eh bien, la machine délivre un petit ticket. Il faut ensuite passer en caisse et on peut déduire la somme du montant de ses achats. Yolanta est une jeune mère de famille. Dans son sac, principalement des bouteilles d'eau, ce système l'a incité à se mettre au tri sélectif. On l'écoute.
Avant, je n'y prêtais pas attention. C'est cette nouvelle loi qui m'a ouvert les yeux. Nous sommes forcés désormais de payer une consigne sur chaque bouteille. Pour moi, le système pourrait s'ouvrir à d'autres récipients que les bouteilles. Mais au moins, maintenant, on vit plus proprement.
Des centaines de millions de bouteilles consignées transitent par un grand centre de tri à quelques kilomètres de Vilnius. Les équipes de Ginter Asvarnas, le directeur du système de consigne, trie le verre par couleur, compresse les bouteilles en plastique et les canettes en aluminium. Pour lui, ce système a permis de nettoyer la Lituanie.
Chaque année, il y a environ 600 millions de bouteilles sur le marché. Avant, à peine un tiers d'entre elles étaient recyclées. Cela veut dire que près d'un demi-milliard d'entre elles se retrouvaient on ne sait où, mais surtout dans la nature. C'est d'ailleurs l'une des spécificités ici. Ici, on boit beaucoup dans la nature, près des lacs, dans la forêt. Une fois par an, en Lituanie, il y a une grande action de nettoyage public. Les organisateurs remarquent que maintenant, on trouve souvent des pneus, toutes sortes de déchets, mais plus de bouteilles.
93% des bouteilles mises sur le marché, vous le disiez, sont désormais recyclées, et ce, à l'initiative du gouvernement. Vous êtes donc allé rencontrer l'officiel en charge des déchets au ministère de l'Environnement. Pour Agné Bagochute, si le résultat est si positif et si la consigne est très suivie dans ce pays, c'est d'abord parce que c'est pratique, on l'écoute.
Le système de consigne fonctionne durant les heures d'ouverture des magasins. L'année de lancement, notre objectif était de récolter 50% des bouteilles sur le marché, mais nous avons atteint les 74% très rapidement. Aujourd'hui, nous avons souvent des demandes pour élargir le système à d'autres récipients en plastique et en verre.
Un recyclage pratique, Marielle, et puis aussi un recyclage très cohérent économiquement.
Alors, ce système de tri, Frédéric, fonctionne grâce au principe du pollueur-payeur. Le coût du recyclage est inclus dans le prix de la bouteille, environ 3 centimes d'euros par bouteille. Près de 400 kilos de bouteilles de plastique se vendent près de 300 euros et leur usage est illimité. C'est ce qu'explique le responsable du système de consigne, Gintaras Varnas.
On peut évidemment refabriquer des bouteilles en plastique, mais aussi toutes sortes de tissus synthétiques. Une bouteille pèse environ 30 grammes, avec on peut fabriquer 300 km de fils plastiques qui servent dans l'industrie textile ou automobile. C'est une matière qui vaut de l'or.
Le plastique et l'aluminium collectés en Lituanie partent à l'étranger. Le verre reste, lui, dans le pays. Le système de consigne a du bon pour le directeur de la plus grande société de production de verre dans le pays. Écoutez, Evaldas Solionas.
Dans les conteneurs, on trouvait de tout. Des assiettes, des rétroviseurs, des miroirs. Avec le système de consigne, le verre est beaucoup plus propre. Chaque année, nous recyclons plus de 40 000 tonnes de verre. Et sur certains sites, cela représente plus de 65% de notre production.
Sur la voie de l'écologie, la Lituanie ne s'arrête pas en si bon chemin et c'est ce que détaille Agné Bagočiūtė du ministère de l'Environnement.
La Lituanie est en train de réviser sa législation concernant l'impôt sur la pollution. Une taxe sur les emballages va être introduite pour les producteurs locaux comme les importateurs. Moins l'emballage sera polluant, plus cette taxe sera réduite et la différence sera notable.
Et en attendant, Marielle, l'une des plus grandes chaînes de supermarchés présentes en Lituanie, Rimi, vient d'annoncer qu'elle allait bannir tous les produits en plastique à usage unique de ses rayons à partir de 2020, soit 2 ans avant que l'interdiction européenne n'entre en vigueur. Merci Marielle Vituro, on vous retrouve très bientôt sur Accent d'Europe.
Merci Frédéric et à bientôt.
Et l'intelligence artificielle viendra-t-elle au secours du recyclage? C'est déjà presque fait. Dans le nord de la France, l'entreprise Veolia utilise et teste depuis quelques mois un robot trieur. Il s'appelle Max et c'est une première en Europe dans un centre de tri ménager. Lise Verbeck est allée le voir pour nous.
Sous le robot trieur défilent tous les déchets fibreux, c'est-à-dire le papier et le carton, de la moitié des habitants du département de la Somme, environ 450 000 personnes. Max est fixé au-dessus du tapis et ses 3 bras articulés comme de grandes tentacules font tout le travail.
Alors le robot Max, fonctionne avec intelligence artificielle.
Philippe Herdebeau, directeur du centre de tri.
Il a une caméra en amont. 2 caméras même qui filment le produit qu'il passe et en fonction de la base de données qui est alimentée par les ingénieurs, permet de reconnaître le produit et en fonction de sa consigne de tri, il le laisse passer ou il le surtrie. Il y a des centaines de milliers d'images qu'on agrémente au fur et à mesure par rapport aux nouveaux emballages qui peuvent être émis. Parce que son rôle de surtri sur les fibreux, c'est de retirer tout ce qui n'est pas fibreux, comme sont les résines plastiques, mais aussi de l'aluminium. Et autres déchets.
Max commet environ 10% d'erreurs. Alors au bout du tapis, un opérateur est chargé de contrôler et de retirer les oublis du robot.
Avant, c'est nous qu'on ramasse aussi. Donc c'est largement, aujourd'hui, ça va, on est bien par rapport à vous.
Le robot effectue 3600 gestes de tri par heure, là où l'opérateur en fait 2400. Alors peut-il à terme remplacer l'homme? Il faudra toujours des opérateurs et Max ne sera pas responsable de suppression de postes, assure le directeur du centre.
Étant donné qu'il est fait par rapport à une création de sa base de données, il faut toujours l'enrichir. Parce que vous imaginez bien, entre trier, à un moment donné, il va y avoir un portable, une petite voiture pour un enfant, ça peut être une bille, ça peut être autre chose. Il y a tellement de multitudes d'emballages qui peuvent exister, mais aussi multitudes d'objets qui nécessitent justement toujours, en tout cas à l'heure actuelle, toujours une mise à jour de ce robot. Plus il apprendra, plus l'opérateur en améliorera ses conditions de travail, puisqu'il sera vraiment sur du contrôle. Donc il rectifiera ce que le robot aura raté.
Veolia compte utiliser 2 autres robots de ce type dans la métropole de Nantes d'ici 2 ans. 2 robots qui trieront cette fois le plastique.
Et aux marges de l'Europe, la Géorgie veut elle aussi rattraper son retard motivé par son accord d'association avec l'UE. Le pays veut interdire les sacs plastiques, une petite révolution pour les commerçants et les consommateurs. À Tbilissi, Régis Janté.
525, c'est le nombre de sacs plastiques qu'un Géorgien utilise chaque année. Dans l'UE, la moyenne est de 200 par an. Il faut dire qu'en Géorgie, si vous achetez, comme je l'ai fait ce matin, une bouteille d'eau minérale, on vous la met dans un sac plastique. Autre exemple, dans les supermarchés, les dentifrices et autres savons sont posés dans un sac de polyéthylène très fin afin que leur emballage, pourtant épais, n'entre pas en contact avec l'emballage de vos produits alimentaires. Tout cela, c'est fini grâce au décret 472 du 14 septembre dernier. Celui-ci interdit depuis le 1er octobre les sacs à usage unique de moins de 0,015 mm d'épaisseur. Et à compter du 1er avril 2019, ce seront tous les sacs plastiques qui seront bannis. Désormais, seule la production, l'importation et la distribution de sacs biodégradables sera autorisée. Amendes à l'appui pour les entreprises qui dérogeront à cette règle verte. La Géorgie est le premier pays de la région à prendre une telle mesure. La prise de conscience des problèmes écologiques ne fait que s'éveiller dans cette ex-république soviétique, trop occupée qu'elle a été depuis son indépendance en 1991, à régler d'autres problèmes. Guerre civile, conflits séparatistes, effondrement de l'économie. Certes, le décret 472 a été pris par devoir de se mettre en conformité avec la législation européenne dans le cadre de l'accord d'association entré en vigueur il y a un peu plus de 2 ans. Mais le gouvernement semble réfléchir à d'autres mesures allant en ce sens, comme de faire que 90% des véhicules du pays soient électriques d'ici 10 ans.
J'avais rendez-vous avec un agent.
C'est une part du budget des Européens qui ne cesse d'augmenter au point de donner le vertige. Se loger en Europe devient de plus en plus cher et cette situation exclut aujourd'hui les plus précaires d'un marché ultra tendu. Paris s'inquiète d'une flambée des prix post-Brexit. Nous faisons le point avec vous, Eve Minot, sur ce que cela coûte de se loger en Europe.
Bonjour Frédéric, et cela coûte de plus en plus cher, ça c'est sûr. Alors tout d'abord, rassurez-vous, Paris, pour Paris, car d'après les spécialistes, seul le marché de l'immobilier de luxe sera touché. Plusieurs banques britanniques ont bien choisi la capitale française, à un peu plus de 2 heures de train de Londres pour y installer leur succursale sur le territoire de l'Union européenne. Il y aura donc bien de nouveaux locataires parisiens anglophones à gros portefeuille, mais surtout dans les arrondissements les plus bourgeois de Paris, le 8e, le 16e, le 17e, bref, pas de quoi normalement bouleverser la vie quotidienne de tous les Français.
Mais Paris est devenue la 4e ville la plus chère au monde en ce qui concerne l'acquisition d'un bien, devançant même Tokyo, qui était longtemps sur le podium.
Cette fois-ci, il ne s'agit plus de loyer, mais bien de prix à l'achat. Inaccessible pour la majorité des Français, le prix au mètre carré qui ne cesse d'augmenter. En fait, vous l'avez dit, la 4e ville la plus chère au monde, derrière Londres, New York et San Francisco. Une agence immobilière s'est même amusée à comparer ce qu'un particulier pouvait acheter s'il bénéficiait d'un budget quand même conséquent de 300 000 euros partout dans le monde. Eh bien, accrochez-vous, à Londres, vous pourrez vous offrir pour cette somme un studio de 18 mètres carrés. À Paris, un 2 pièces de 30 mètres carrés. Il vaudrait donc mieux partir pour Barcelone ou Berlin, où pour le même prix, vous pourrez acheter un appartement familial de 70 mètres carrés, voire carrément poussé jusqu'à Bruxelles, la capitale européenne qui bat tous les records et offre 100 mètres carrés pour le même montant. Tous les Européens ne sont donc vraiment pas logés à la même enseigne.
Oui, à Berlin d'ailleurs, l'attraction pour les étrangers est telle que la ville réfléchit à interdire aux non-allemands de devenir propriétaires.
Et cela pour répondre à une situation intenable pour la plupart des Berlinois, la flambée des prix à la location autant qu'à l'achat. Le prix au mètre carré a été multiplié par 2 dans la capitale allemande en 10 ans et les loyers ont carrément pris 20% en seulement un an. Cette flambée est d'abord due aux investisseurs étrangers qui représentent aujourd'hui 68% des nouveaux acquéreurs dans la capitale allemande. Résultat, les Berlinois sont obligés de quitter la ville pendant que les investisseurs étrangers voient leurs profits augmenter. Même si cette proposition a le mérite de répondre à un grand malaise au sein de la population berlinoise, elle a très peu de chances d'aboutir, notamment car la loi interdit de discriminer les Européens.
Conséquence de cette flambée des loyers, Eve, le lancement dans plusieurs pays d'Europe de grands plans d'urbanisme dédiés à l'habitat abordable.
Oui, on pourrait dire que l'Europe redécouvre les vertus du logement social. Au Royaume-Uni d'abord, où Theresa May a annoncé en septembre un plan de 2 milliards de livres pour permettre aux housing associations, aux bailleurs sociaux, de renouveler le parc de logements sociaux existants. Tandis que de son côté, en Allemagne, Angela Merkel a également lancé une offensive, cette fois-ci de 5,7 milliards d'euros, pour construire plus de 1 million de logements sociaux dans les années qui viennent.
Et la situation actuelle, on peut le dire, en Europe est particulièrement difficile pour les plus jeunes qui subissent de plein fouet l'augmentation des loyers.
Et oui, avec leurs petits revenus, ils sont ceux qui sont le plus touchés par l'augmentation fulgurante des loyers à un âge où ils sont censés s'installer. Selon Eurostat, la base de données européenne, les 18-24 ans consacrent la plus grande part de leur budget mensuel au logement. En Suède et en Allemagne, 1 sur 5 dépense même plus de 40% de son budget pour se loger, presque deux fois plus qu'en Espagne ou même qu'en France. Une situation insoutenable, évidemment, sur le long terme, dont les pouvoirs publics semblent prendre lentement conscience.
Merci beaucoup, Eve Minot. On vous retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Frédéric.
Ça ne vous a peut-être pas échappé, en fait, ce soir, le 31 octobre, la fête d'Halloween, fête des morts, des esprits et de la communication avec l'au-delà, une fête païenne qui vient d'Irlande. Et c'est sur cette terre celtique que notre correspondant Julien Lagache est allé rencontrer des chasseurs de fantômes, les Irish Ghost Hunters. Leur but n'est pas de se faire peur, mais de trouver des traces scientifiques et tangibles d'une présence inexpliqué qu'on leur a signalé.
Hello, Irish Ghost Hunters.
Il y a une dizaine d'années, Tim Kelly, animateur radio dans la vie, a fondé Irish Ghost Hunters, l'un des rares groupes professionnels de chasseurs de fantômes en Irlande. Une équipe qui traque les phénomènes étranges pour tenter de les expliquer ou enregistrer des preuves d'activité paranormale. On reçoit deux types d'appels. Les premiers viennent de vieux châteaux classiques, mais les seconds viennent de particuliers qui reçoivent des coups durant la nuit, dont les draps sont tirés par quelque chose, ils sentent quelqu'un assis sur le lit, comme un poids, mais il n'y a personne.
Une de leurs enquêtes les a menées à Loftus Hall, un petit manoir du comté de Wexford qui aurait un jour reçu la visite du diable en personne. Lors d'une soirée, il se serait envolé en laissant un trou dans le plafond encore visible aujourd'hui. Le propriétaire affirme que des manifestations étranges se produisent, notamment dans les étages. Tim Kelly et son équipe ont donc passé la nuit sur place, équipés de leurs caméras de vision nocturne, détecteurs d'ondes magnétiques et thermiques et enregistreurs vocaux.
Tu vois, si tu tiens là, c'était juste ici.
Il y avait une tache rouge sur la caméra thermique ?
Ouais.
Ah, tu entends le détecteur magnétique qui se déclenche ?
Pas d'apparition choc, mais des éléments tangibles dont l'origine semble inconnue, ainsi que des sensations inhabituelles dans les fameux étages supérieurs où Tom, un membre de l'équipe, est envoyé seul.
Je viens d'entendre des bruits de pas derrière moi dans l'escalier. Est-ce que l'un d'entre vous est monté ?
Non, personne n'est monté, on est tous en bas.
Ok.
Oh. Hallucination ou non, Tom finit la visite secoué et épuisé par son excursion qui aura révélé un fort niveau d'ondes magnétiques, a priori sans cause. Tim Kelly explique d'ailleurs que bon nombre de leurs enquêtes se terminent sans conclusion définitive, de quoi frustrer les curieux qui visitent les lieux réputés hantés pour voir des fantômes. Cependant, pour le fondateur des Irish Ghost Hunters, si les faits sont rarement spectaculaires, cela n'enlève en rien au mystère qui entoure les énergies et phénomènes encore inexpliqués et qui sont parfois tout aussi effrayants.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Steven Elsley. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr, rubrique émission puis Accent d'Europe. On se retrouve dès demain, dans quelques instants, un nouveau point sur l'information sur RFI. RFI.